Le débat africain. Alain Foucault.
Sa promesse de remettre sa part d'héritage paternel à la jeunesse n'en finit pas d'alimenter les commentaires les plus contradictoires. La brève arrestation à Paris de son directeur de cabinet aussi. Sans oublier la quatrième édition du New York Forum Africa qui s'est déroulée à Libreville il y a quelques jours. Le Gabon n'en finit pas d'être au cœur de l'actualité. Son président, Ali Bongo Ondimba, et les oppositions politiques sont nos invités cette semaine. Bonjour et bienvenue dans le débat africain qui est ce dimanche à Libreville. Avec dans cette première partie le chef de l'État, Ali Bongo Ondimba, comme invité. Bonjour Monsieur le Président.
Bonjour Monsieur Foucault.
Il y a quelques semaines, votre avion était saisi à Paris. Quelques jours après, c'est votre directeur de cabinet qui était arrêté pendant une journée par la justice française. Et dans le même temps, on publiait vos conversations téléphoniques interceptées. Autant d'affaires dans un laps de temps relativement court qui amène à se poser de nombreuses questions. Le torchon brûle-t-il entre Paris et vous ?
Monsieur Foucault, comme président de la République gabonaise, ma mission, comme tout chef d'État, est d'abord de veiller et de défendre les intérêts de mon pays. Et c'est ce que j'essaie de faire tous les jours. Et dans le cadre de cette mission, il est un élément important que tous doivent savoir. Je ne laisserai personne porter atteinte à la souveraineté du Gabon. La souveraineté du Gabon est reconnue, elle doit être respectée. Il se trouve qu'un certain nombre de personnes, au Gabon comme en France, veulent absolument brouiller la relation que nous avons avec la République française. Moi, je me tiens à ce que, dans le cadre des relations que nous avons avec la République française, tout se passe pour le mieux. Et ce qui compte d'abord, c'est que nous avons une relation qui est ancienne et que le président François Hollande et moi-même travaillons, comme nos prédécesseurs, à renforcer. C'est dans l'intérêt de nos deux pays.
Est-ce qu'il n'y a pas une réalité dans tout ça ? Est-ce que toutes ces affaires ne sont pas l'aboutissement normal de la justice ?
La réalité est que nous travaillons sur des sujets importants, le dernier en date, et vous êtes là dans le cadre donc, du New York Forum, vous savez que nous avons consacré une partie importante à la future COP21. Nous avons reçu Mme Ségolène Royal, qui est donc venue représenter le président Hollande pour que l'on parle de cette question qui est très importante. Comment sauver la planète en décembre prochain à Paris et quelles sont les contributions des uns et des autres ?
COP21.
Voilà. Et je peux vous assurer que sur un certain nombre d'autres dossiers, nous travaillons avec le gouvernement français à, encore une fois, renforcer la relation qui est la nôtre, diversifier les relations économiques en attirant encore plus d'investisseurs français, regarder les possibilités pour nous d'investir aussi en France et surtout de veiller au ski à apporter notre contribution sur les grands dossiers de l'heure. Maintenant, ceux que j'ai dénoncés qui veulent absolument brouiller la relation entre nos deux pays, je peux leur dire que cette relation est solide. Nous ne laisserons pas faire.
L'autre actualité, qui fait la une des médias également, dont on parle beaucoup, c'est l'annonce faite lors de la 55e fête nationale. L'héritage, le patrimoine de la famille Omar Bongo Ondimba. Vous décidez de donner une part à la jeunesse gabonaise, votre part. Déjà, que représente ce patrimoine, cette fortune, que représente-t-elle ? On parle de guerre des successions. Comment pouvez-vous décider aujourd'hui de remettre cela à cette jeunesse dont vous parlez dans vos discours ? Mais vous êtes quand même 54, hein ? Est-ce que vous avez autorité pour parler pour ces 54 personnes ? Est-ce que vous les avez consultées ?
Je vais d'abord préciser quelque chose, je pense, assez important que peu connaissent. À la mort du président Omar Bongo Ondimba, mon père n'a laissé qu'un testament rédigé il y a plusieurs années. Et dans ce testament, tous les héritiers n'y figuraient pas. Quelle a été ma réaction ? Ma réaction a été d'en discuter avec ma sœur Pascaline et de veiller à ce que ceux qui ne figuraient pas dans ce testament puissent aussi bénéficier de l'héritage de leur père.
Oui.
Ainsi, nous avons fait en sorte que dans certaines structures dans lesquelles la famille était actionnaire, nous avons adjoint et amené tous les autres enfants qui n'étaient pas actionnaires à l'être, comme nous. Donc déjà, le premier geste qui a été le mien, c'est déjà de réduire ma part d'héritier dans un certain nombre d'affaires pour en amener d'autres, pour que cela puisse bénéficier, pour plus d'équité au sein déjà de tous les enfants. Voilà ce que j'ai d'abord commencé à faire.
Oui, mais aujourd'hui, il y en a qui portent plainte,
et
par
ça,
exemple.
Et ça, mes frères et sœurs le savent. Ensuite, ayant accompli ce geste, il m'apparaissait normal de pouvoir aussi faire en sorte que, dans la mesure de mes possibilités, si je pouvais venir en aide à la jeunesse gabonaise, qui représente pour moi l'avenir du pays, est absolument, à mes yeux, normal d'accomplir le geste que j'ai décidé de faire.
Alors ce geste que vous avez décidé de faire, il est de combien de millions? Combien vous allez remettre à cette jeunesse-là? Puisqu'aujourd'hui, personne ne sait à combien s'élève le patrimoine Bongo.
Est-ce que c'est important pour vous de connaître combien? Est-ce que c'est important?
Lorsqu'on lègue, on a envie de savoir ce qu'on lègue en réalité.
Monsieur Foucault, d'abord, je ne lègue que ma part à moi, celle qui me revient. Je n'ai pas à venir parler de tout l'héritage dans la mesure où ça concerne aussi d'autres personnes. Je ne parle que de moi. Ensuite, j'ai bien indiqué qu'il s'agissait de reverser les revenus tirés d'un certain nombre de placements. Ces revenus peuvent fluctuer. Aujourd'hui, selon l'actualité, selon le marché, les revenus peuvent passer d'un certain niveau à d'autres. Donc, je crois que ce qui est important et à retenir, c'est la décision que j'ai prise. Et je ne voudrais pas, et je ne souhaiterais pas, que l'on puisse un instant imaginer que je fais des déclarations à la légère.
Est-ce que votre famille a été consultée,
parce qu'en fait, je trouve extraordinaire, alors que rien ne me contraignait à prendre une décision comme celle-là, lorsque je le fais, on vient se poser des questions sur mon engagement. Vous croyez qu'au niveau où je suis, un chef d'État, je pourrais être vulgairement pris en état de mensonge par rapport à quelque chose que j'ai décidé et annoncé à la face du monde?
On a vu ça ailleurs.
Ceux qui me connaissent savent que je ne suis pas comme cela et que je ne prends pas des décisions à la légère et qu'elles sont mûrement réfléchies.
Pourquoi maintenant, coup médiatique à quelques mois de la présidentielle, opération de séduction de la jeunesse qui va voter?
Mais M. Foucault, j'ai déjà, sans bruit, tintamarre ou publicité, agi dans le sens de soutenir des projets pour la jeunesse. Par exemple, je disposais d'une propriété, d'un terrain, que, avec la première dame, j'ai mis à disposition de sa fondation pour réaliser une école. Une école qui aujourd'hui est ouverte depuis 2 ans. Bon, et donc je l'ai fait sans publicité. Et la fondation de la première dame offre des bourses pour à peu près 20% des élèves de cette école, 20% de bourses aux élèves méritants et qui viennent de familles défavorisées. Bon, je l'ai fait sans publicité.
Oui, mais là, vous avez fait de la publicité. On ne peut pas s'empêcher de penser que là, il y a une démarche qui est celle de la séduction, que vous êtes déjà en campagne présidentielle.
Mais dans ce cas, si c'était vraiment la campagne présidentielle qui me préoccupait à ce point-là, et à supposer donc, que je sois candidat, j'aurais peut-être attendu 2 à 3 mois avant la campagne. Vous savez, les choses, moi en politique, j'ai bien observé qu'on a souvent la mémoire courte. Donc ce qui est dit 1-2 ans avant, le jour même, on oublie déjà. Donc si c'était vraiment la campagne présidentielle qui m'occupait, je n'aurais pas choisi ce moment-là pour faire cette déclaration.
Vous n'avez pas répondu à ma question sur laquelle j'insiste. Est-ce que votre famille a été consultée dans cette histoire de patrimoine? Parce qu'il y a quand même quelques-uns qui portent plainte. Est-ce que, au sein de la famille, vous n'avez pas essayé de spolier les autres?
Qui porte plainte?
Une de vos sœurs, par exemple.
Qui, à l'origine, n'était pas dans le testament.
Oneida.
Elle n'était pas dans le testament, à l'origine. Et c'est moi qui ai fait en sorte qu'elle le soit. Non, je pense simplement qu'il ne faut pas distraire le peuple gabonais. Chacun d'entre nous a ses propres relations avec sa famille. Moi, je ne viens pas vous demander si vous entendez bien avec vos frères et sœurs. Ce qui est important, encore une fois, c'est que la famille, dans son ensemble, soutient la démarche qui est la mienne et qui est dans la philosophie de ce que notre père nous a appris et nous a légué comme enseignement.
Nous sommes à la 4e édition du New York Forum for Africa. Ça coûte beaucoup d'argent aux contribuables gabonais. Qu'est-ce que ça a rapporté jusqu'à maintenant?
Le New York Forum est un lieu d'échange entre les décideurs politiques. Et nous discutons sur différents sujets, aussi bien affaires, culturelles, scientifiques. Un des thèmes aussi importants de ce New York Forum, c'est même la question climat, le changement des climats. Donc, pour dire que c'est un rendez-vous important que tous les Gabonais attendent, grâce à la tenue de ce forum, des personnes qui, des fois, n'auraient jamais été en contact le sont. Et nous voyons procéder à la signature d'un certain nombre d'accords et de deals.
Est-ce que ça a rapporté quelque chose de concret qui puisse séduire les Gabonais demain? Parce que beaucoup y voient tout simplement une amitié entre vous et M. Attias.
Mais bien sûr, encore une fois, je vous dis que si ce forum n'avait pas été positif pour le Gabon, nous l'aurions arrêté tout de suite. Nous avons eu la présence, la participation de plusieurs chefs d'État africains qui ont aussi vu un intérêt. Et maintenant, les hommes d'affaires africains aussi viennent en même temps que nous avons des hommes d'affaires qui viennent d'Asie, qui viennent des États-Unis, qui viennent d'Amérique latine, d'anciens présidents sud-américains qui viennent aussi nous donner leur contribution, comment ils voient l'évolution des choses. Nous avons aussi des Européens et un certain nombre d'hommes d'affaires très importants de toute la planète qui viennent maintenant.
Merci beaucoup, Monsieur le Président, d'avoir accepté de participer à ce magazine.
Merci.
Après ces 10 minutes d'entretien avec le président Ali Bongo Ondimba, réalisé il y a 1 heure, on se retrouve ici sur le plateau du débat africain avec plusieurs invités, plusieurs personnalités de la classe politique gabonaise. D'abord, le docteur Akouré Davin Séraphin, le président de l'Alliance pour le Nouveau Gabon, ANG, parti de l'opposition. Le docteur Akouré est, il faut le préciser, démissionnaire du PDG, le parti au pouvoir. Il est aussi ancien maire de Lambaréné. Second invité de ce plateau, Jean de Dieu Moukani Iwangu, le président de l'Union du peuple gabonais, l'UPG. Monsieur Moukani Iwangu est également le président du Front de l'opposition pour l'alternance, le FOPA. Marc Ona Essangui, l'un des principaux leaders de la société civile, est également sur ce plateau. Vous êtes aussi le secrétaire exécutif de l'ONG Burn Forest. Notre quatrième invité, et pas des moindres, est Alain-Claude Bili-Binzier, le porte-parole de la présidence de la République. Vous avez tous écouté l'entretien avec le président Ali Bongo Ondimba sur les différents sujets d'actualité liés au Gabon. Une première réaction, Marc Ona Essangui, d'abord sur la question de l'héritage. On a eu le sentiment que l'opposition a été prise de court, qu'elle était surprise par cette annonce.
Je fais partie de ceux qui n'ont pas salué cette annonce. Je n'ai pas été surpris parce que chaque déclaration d'Ali Bongo est ponctuée par des déclarations intempestives, sans lendemain. Je n'ai pas été surpris. J'ai tout simplement rigolé parce que quand on regarde un peu ce qu'on entend par héritage, héritage, c'est exactement ce qu'on prend suite à un décès. Ça peut être d'une famille, enfin d'un père, d'une mère. Mais le véritable problème, et vous-même vous l'avez suivi dans l'interview et les déclarations de son porte-parole, personne ne peut quantifier cet héritage, c'est-à-dire son héritage. Mm-hmm. Il n'a pas pu donner le chiffre. On ne sait pas exactement à combien, en termes d'argent, s'élève cet héritage, en termes d'actifs immobiliers, en termes même de...
Mais sur le principe même de remettre sa part d'héritage, est-ce qu'il n'y a pas déjà quelque chose de spécial, principe, de nouveau, d'unique?
Sur le principe de remettre sa part d'héritage à la jeunesse, je voudrais tout simplement dire que Ali Bongo est au pouvoir depuis 2009. Et cette jeunesse est complètement sacrifiée. Il faut regarder l'état de nos universités. On a même érigé les vestiaires d'un stade en salle de classe. Tout simplement parce que depuis 2009, je ne sais pas, nous avons attendu les chiffres du nombre de salles de classe construites pour la formation de cette jeunesse. Ils ne sont pas capables de donner le nombre de salles de classe. Maintenant, quand on regarde l'état de décrépitude de l'université, les 3 universités que nous avons au Gabon, l'université de Libreville, au Mabongo, l'université des sciences et techniques de Massoukou et l'université des sciences de la santé, je voudrais dire que j'ai honte d'être gabonais quand on regarde. Maintenant, nous sommes à quelques mois des élections présidentielles. Monsieur Ali Bongo peut facilement distraire les Gabonais, c'est lui qui parle de la diversion, divertir les Gabonais avec des annonces comme à son habitude. Moi, je ne suis pas surpris.
Docteur, vous vous êtes surpris, monsieur le maire?
J'ai été surpris par...
Réellement ou pas?
Non, par le bilan que le chef de l'État lui-même a fait de notre système éducatif. Jusque-là, j'entendais que tout se passait bien, et ça, c'était ses collaborateurs. Mais aujourd'hui, le président de la République lui-même a dit qu'il y avait une crise dans l'enseignement et les résultats étaient mauvais. Alors, la réponse à ce problème très important, est-ce un don? C'est ça la question. Je pense qu'il aurait été judicieux de faire, de poser le diagnostic du mal de la jeunesse gabonaise, de l'éducation gabonaise, et de proposer des solutions. À mon humble avis, ces solutions ne passent pas par la cession d'une partie de l'héritage d'Omar Bongo à cette jeunesse, parce qu'on peut faire autrement. La deuxième chose concernant cet héritage, sauf si je me trompe, il fait l'objet d'une procédure judiciaire dans l'affaire des biens dits mal acquis. Donc je suis un peu surpris, je ne suis pas un spécialiste du droit, peut-on céder un héritage qui fait l'objet d'une enquête judiciaire? Je pose la question, je n'en connais pas la réponse. Et la troisième chose, c'est que cet argent vient d'où? Il vient des biens, il provient des biens d'Omar Bongo Ondimba. Je ne suis pas là pour faire le procès d'Omar Bongo Ondimba. Mais ce que je souhaite, c'est que cette situation ne se répète plus. C'est-à-dire que nous n'ayons pas
Est-ce que le geste en lui-même n'est pas louable? Le fait de dire, voilà, il y a cette part d'héritage qui me revient, je la remets à la jeunesse.
Ce n'est pas ce que nous attendons, monsieur Foucault, ce n'est pas ce que nous attendons du chef de l'État de notre pays. Nous attendons que le chef de l'État, face aux problèmes très importants que pose la jeunesse, actionne le pays, actionne les ressources propres du pays pour régler ce problème. Mais nous ne voulons pas de ce don. On a comme l'impression qu'ils veulent se débarrasser d'un cadeau empoisonné. C'est la question que nous nous posons.
On va en parler. Alors là, je me tourne vers M. Iwangou pour poser la même question. Quelle réaction après cette annonce?
C'est Diderot qui dit que la conscience est à éclairer et non à contraindre. La déclaration du chef de l'État ne peut pas ne pas susciter cette préoccupation dans le rapport qu'il y a avec la loi. Un héritage, selon la loi gabonaise, est réglé soit selon la volonté du décujus, de celui qui décède, et s'il ne l'a pas consigné, cela est réglé selon le rapport que la loi établit. Alors, on apprend que le chef de l'État a déshérité de fait une partie de ses enfants. C'est tout à fait affligeant. Et cet élan de cœur qui a conduit certains, ou du moins M. Ali Bongo Ondimba, à intégrer ceux des héritiers potentiels dans la succession est une opération blanche. Parce qu'a priori, il aurait dû, puisque cette succession a été réglée par l'auteur, il aurait été plus indiqué, pour autant que la loi est une préoccupation, que cet héritage soit partagé selon la volonté du décujus. Maintenant, et c'est là que l'élan de cœur aurait dû opérer, il devait revenir aux héritiers prévus par le père, de prendre sur eux, d'en redistribuer aux autres. C'est le rapport à la fois à la loi et à la vérité. Maintenant, il y a le fond du débat. Est-ce qu'en l'état actuel de cet héritage, qui est totalement grevé de conflits, dont certains actifs sont placés sous scellé judiciaire, peut-on aujourd'hui décemment le distribuer déjà, le partager, alors même qu'on n'en sait pas exactement par rapport au bénéfice d'inventaire qu'il faut forcément opérer, ce qui doit revenir à la collectivité nationale, parce que, hélas, il y a une réalité qu'on ne peut pas contourner. Certains actifs de cet héritage-là ont été acquis avec les deniers publics. Donc, dans l'incertitude sur la part qui doit repartir au domaine public et celle qui doit revenir aux héritiers aux fins de partage, il me paraît tout à fait malvenu, à tout le moins, qu'on puisse penser à distraire une partie.
On va revenir dessus puisque le temps tourne vite et qu'on aura une seconde partie pour en parler et des autres sujets. Mais avant de passer à la seconde partie, j'ai envie de passer la parole au porte-parole, Alain Bilibinzier. Quelle réaction, puisque là, on a l'opposition qui n'est pas surprise par cette annonce et qui n'a pas l'air séduite, qui n'y croit pas.
Elle est tout à fait conforme à son habitude. C'est une opposition pavlovienne. Dès qu'Ali Bongo fait une chose, c'est forcément mauvais, y compris s'agissant de quelque chose qui lui est propre. Et j'ai envie de dire, dont elles n'ont rien à voir là-dedans. Il ne s'agit pas des deniers de l'État. Il s'agit de quelqu'un qui dit, ma part d'héritage, je la consacre à la jeunesse. Vous connaissez de par le monde, j'en ai consacré leur héritage aux animaux domestiques, d'autres à la science, d'autres à la culture. Il dit la mienne, je la consacre à la jeunesse gabonaise. Et on sent l'embarras d'une opposition qui a du mal à se situer, qui a du mal à se créer un réel projet, et qui va ergoter sur une affaire de famille. Parce qu'en définitive, tout ce que j'ai entendu, ça concerne une famille, ça ne concerne pas du tout, là pour le coup, les citoyens gabonais. Sauf à nous indiquer qu'effectivement, comme je viens de l'entendre de la part de M. Wangou et de M. Apouré, que ça relèverait des biens dits mal acquis. Alors, auquel cas, allons jusqu'au bout, si les biens de Mabongo auraient été mal acquis, qu'en est-il des biens de leurs amis de l'opposition?
Vous pensez à qui en particulier quand vous dites ça?
Je vais demander de justifier, mais ils le savent. Les Miboto, les Ping, 30 ans avec Omar Bongo, ils n'auront jamais demandé de justifier leurs biens. Donc on a là une opposition mal à l'aise par rapport à ce geste d'Ali Bongo, et je comprends.
On en parle dans la seconde partie de ce débat africain, puisque nous arrivons au terme de la première partie. Le temps tourne vite. Rendez-vous donc juste après une nouvelle édition du journal sur Radio France Internationale pour la suite du débat africain.
Le professeur de philo. Le débat africain. Alain Foucault.
Suite du débat africain spécial Gabon avec plusieurs invités sur ce plateau. D'abord, le docteur Akouré Davin-Séraphin, le président de l'Alliance pour le Nouveau Gabon, ANG, parti de l'opposition. Le docteur Akouré est, il faut le préciser, démissionnaire du PDG, le parti au pouvoir. Il est aussi l'ancien maire de Lambaréné. Second invité de ce plateau, Jean de Dieu Moukani Ouangou, le président de l'Union du peuple gabonais, l'UPG. Monsieur Moukani Ouangou est également le président du Front de l'opposition pour l'alternance, le FOPA. Marc Onaï Zangui, l'un des principaux leaders de la société civile, est sur ce plateau. Vous êtes aussi le secrétaire exécutif de l'ONG Brainforest. Et dernier invité, et pas des moindres, Alain-Claude Bilibinze, le porte-parole de la présidence de la République. Dans la première partie de ce magazine, nous avons écouté l'entretien avec le chef de l'État. À la fin de cette première partie, nous parlions de cette question d'héritage qui continue de diviser. Et avant de passer aux autres sujets, vous souhaitiez d'abord réagir à la réflexion de monsieur Alain-Claude Bilibinze qui faisait remarquer que les autres leaders de l'opposition n'ont pas manifesté la même générosité vis-à-vis du peuple gabonais. Marc Onaï Sangui, vous vouliez répondre à cette réflexion?
Je voulais tout simplement rappeler que le débat autour de cette table porte sur la déclaration d'Ali Bongo. Mmh. Le débat ne porte pas sur les biens mal acquis. Mmh. Maintenant, si Ali, monsieur Bilibinze voudrait qu'on aborde l'aspect lié aux biens mal acquis, je voudrais tout simplement lui rappeler que le fameux immeuble 4 rue de la Baume, qui a été cédé, je dis bien cédé par Ali Bongo, à l'État gabonais, c'est une opération de communication. Parce que cet immeuble appartient, j'en sais quelque chose, aux deux enfants d'Edith Lucie Bongo. J'ai personnellement manifesté devant cet immeuble en 2007 parce qu'il a été acheté par une SCI gérée par ses deux enfants à hauteur de 18 millions d'euros. Si nous sommes dans la logique d'un principe de restitution, parce que c'est un principe de restitution caché, c'est une opération de communication d'Ali Bongo dans le cadre de la restitution, parce que c'est un cadeau empoisonné. Nous disons tout simplement que la restitution dans le cadre de la Convention de Mérida ne s'effectue pas de cette manière. On restitue dans le cadre de la Convention de Mérida quand les intéressés ne sont plus au pouvoir. Aujourd'hui, Ali Bongo veut tout simplement donner par la main gauche ce bien et récupérer par la main droite parce que c'est eux qui sont au pouvoir. Alors, je pense que c'est une opération ratée tout simplement parce que nous ne pouvons pas, au niveau de la société civile, nous ne pouvons pas accepter que la restitution, parce que c'est la restitution dont il est question, on ne peut pas accepter que la restitution se fasse de cette manière. Tant qu'Ali Bongo et sa famille sont encore aux affaires, aucune restitution ne sera acceptée dans le cadre de biens mal acquis.
Alors rapidement, pour qu'on termine sur ce sujet-là, une réponse à cela?
D'abord, pour ce qui est des biens en France, Ali Bongo n'a pas dit « je sais ». Il a dit « la famille, les enfants Omar Bongo », y compris ce que M. Onaï Sangui évoque. Je découvre que M. Onaï Sangui est désormais membre de la famille Omar Bongo, puisqu'il sait des dessous que les autres ignorent. Mais enfin, peu importe, c'est au nom de la société civile qu'on s'intéresse, y compris aux dessous de famille. Mmh. Peu importe. Mais cette société civile, elle est faite pour appliquer les mêmes principes à tous. Et donc, M. Onaï Sangui est en train de nous dire que si Ali Bongo n'est plus au pouvoir, lui, société civile, ne s'occupe plus de ce que fait Ali Bongo, puisque ceux qui ne sont plus au pouvoir, ils ne s'en préoccupent pas. Et qui sont ses amis avec qui il manifeste. C'est assez surprenant, cette morale à géométrie variable sur les sujets de principe. Moi, la société civile, je la respecte. Et j'estime que M. Onaï Sangui, que je connais depuis de longues années, et j'en vais rapidement avec ce qu'a dit Dr Akouré, le système éducatif gabonais, Marc Onaï et moi, avons mené des grèves à l'université en 90 parce qu'il était mauvais. Les universités étaient mauvaises lorsqu'on a mené des grèves avec M. Onaï Sangui. Donc ce n'est pas d'aujourd'hui. Et au contraire, il y a eu des améliorations significatives dans ces universités-là. Et donc, on ne peut pas, comme cela, faire un bilan et tout balayer. Et je rappelle quand même, puisque ce n'est que depuis 2011 qu'on n'est plus au PDG, que c'était déjà le cas jusqu'en 2011 à votre départ. On ne vous a pas beaucoup entendu à l'époque, en tant que membre du PDG, membre du bureau politique, dénoncer le système éducatif gabonais qui était mauvais et pour lequel Onaï Sangui, Enam Désiré et moi-même avons mené des grèves à l'université.
Je crois que je voudrais dire à mon ami Alain-Claude Bilibinze que quand j'étais député du PDG, je me suis exprimé à plusieurs reprises sur les dérives de ce qui était aux affaires, parce que le Parlement aussi a pour rôle de contrôler l'exécutif, et je l'ai fait. Mais que cela ne tienne, je pense que ce qui est aujourd'hui notre souci, c'est d'améliorer les choses. Et nous n'attendons pas du président qu'il nous donne sa part d'héritage. Nous attendons que le chef de l'État et l'exécutif améliorent le système éducatif. D'autant plus que les résultats qui ont été présentés par vous-même et par le chef de l'État concernent ces 4 dernières années où les résultats scolaires sont particulièrement mauvais.
2002 à 2015.
Bon, de toute façon, jusqu'en 2015, bon, ou un peu plus, que cela ne tienne. Je pense qu'il ne s'agit pas ici de tenir une comptabilité mathématique. C'est le principe. Je crois que notre pays a des soucis, notre pays connaît des problèmes, et que l'on ne règle pas les problèmes d'un État par des donations. Et alors, je pense que du chef de l'État, nous attendons autre chose, c'est-à-dire aller en profondeur, améliorer les choses en utilisant le budget de l'État.
Rapidement.
Merci, merci. J'ai apprécié la rengaine qui a été servie avec beaucoup de talent, qui voudrait chaque fois que l'on puisse dénoncer l'opposition comme étant dépourvue de tout projet de société, de tout programme. Au demeurant, doit-on toujours opposer le programme de l'opposition à un programme qui doit se faire ? Nous sommes sur une question bien précise, celle de ce que j'ai appelé l'élan de cœur. Cet élan du cœur, hélas, ne portera pas les effets tels que je l'ai indiqué. Oui, alors, observez bien la manœuvre. C'est une main qui enlève une part des actifs à un patrimoine privé, qui le propose et le reçoit dans un patrimoine que l'on veut.
Mais il dit dans le même temps que rien ne l'obligeait à le faire. Mais
tout à fait, et c'est tout justement le paradoxe. C'est tout le paradoxe. S'agissant de l'opération en tant que telle, très bien, signalons où on peut se féliciter que Ali Bongo Ondimba ait voulu léguer une part de son héritage à la collectivité. A-t-il besoin, lui également, d'être à la réception pour déterminer la destination de ce bien-là ? Je l'ai dit, il y a un rapport affligeant à la fois avec la loi et avec la vérité. Où, effectivement, ce patrimoine a été clairement partagé par la volonté du père, et on s'y tient, c'est la loi qui le recommande, où cette volonté est neutralisée, mais ce n'est pas d'aujourd'hui.
C'est ce que vous aviez dit dans la première partie. On va passer à un autre sujet qui est celui de l'actualité, qui est un sujet d'actualité. Cet été, ces vacances, on aura beaucoup entendu parler du Gabon, d'abord par l'arrestation de l'avion présidentiel à Paris, ensuite par l'arrestation du directeur du cabinet du président de la République, toujours à Paris, et puis par des écoutes téléphoniques du chef de l'État. On se pose la question de savoir ce qui se passe si le torchon brûle, comme je l'ai posé comme question au président, entre Paris et le Gabon. Comment vous l'expliquez, vous, ça, vous de l'opposition ? J'ai envie de commencer par vous, M. Bangou.
La triste réalité nous rattrape. Il n'y a pas de précédent à la matière. Certainement que je me laisserai contredire et je serai heureux d'être contredit. Il n'y a jamais eu de précédent à la matière où, à ce niveau de responsabilité, les autorités françaises aient pu être contraintes à prendre une décision aussi grave de conséquences. La réalité est que, hélas, la gouvernance du pays est à ce point compromettante qu'elle nous met en difficulté avec l'ordre public international. Parce que c'est de cela dont il est question. Voilà, le sommet de l'État, hélas, est associé à des affaires pas très reluisantes. Je crois que le processus de la vérité, hélas, nous rattrape.
Makona,
j'ai eu à faire une réaction par rapport à cette arrestation. J'ai fait le lien avec la déclaration faite dans le journal Le Monde par le même directeur de cabinet au mois d'avril, le 4 avril précisément, dans le journal Le Monde. Il disait « Les entreprises françaises ont eu un comportement décent à l'époque où Bongo Père était à la tête du pays et que ce comportement ne peut plus être d'actualité. » Et il demandait précisément à la justice française de jeter un œil sur les ajustements des entreprises françaises au Gabon. Alors, moi je pense, quand on a fait cette déclaration et qu'on a été à un moment donné au centre de certaines transactions, cette déclaration l'a tout simplement rattrapée. Parce que les faits qui sont reprochés à M. Akondissi remontent à 2005, quand il était simple conseiller financier d'Ali Bongo, ministre de la Défense. Mais quand vous faites ce type de déclaration, assurez-vous que vos arrières sont beaucoup bien protégés. Et je pense que la justice française, il ne faut pas faire l'amalgame entre le gouvernement français et la justice française. Nous sommes dans un État où les pouvoirs sont séparés.
Tout à fait.
La justice française agit indépendamment des pouvoirs publics. Et ils sont tout simplement tombés sur un fait. L'enquête est menée depuis de longues années. Ils se sont rendus compte que celui qui a fait la déclaration pour que la justice française jette un regard sur les agissements des entreprises françaises au Gabon, ben lui-même était dans le panneau.
Alain Bilibidji.
Enfin, moi je fais le constat que, encore une fois, M. Bangou, je suis désolé de vous le rappeler, zéro projet et des faits divers sont érigés en projet politique. Vous dites qu'il n'y a pas de précédent. On a suivi le même été, presque un casus belli. On a suivi des incidents diplomatiques majeurs avec le Maroc.
Moi, je parle du cas du Gabon.
Ah bon, du cas du Gabon.
Tout à fait.
Très bien, vous auriez dû préciser. D'accord. S'agissant précisément de ces faits.
Sauf si pour vous, ça devient la norme. Hein.
Pardonnez.
Auquel cas,
s'agissant,
je prends acte.
Je réponds à votre question.
Je vous en prie.
S'agissant précisément de ces questions, nous en sommes à une enquête préliminaire de police. C'est pas un juge d'instruction qui, évidemment, en France, est indépendant comme au Gabon. C'est une enquête préliminaire de police sur laquelle, effectivement, le nom est cité. Comme le nom de n'importe lequel d'entre nous ici peut citer dans une enquête préliminaire qui ne porte pas pour le moment à culpabilité. Bien. Donc, ce que dit le président de la République, c'est qu'effectivement, comme vient de rappeler M. Onaï Sandi, il faut distinguer les relations entre États de ces questions qu'il faut pouvoir régler et solder. Si, effectivement, il y a des problèmes de gouvernance qui se posent, il faut les régler. Et je rappelle que cette volonté de régler le problème de gouvernance est réelle, mais elle est difficile, parce qu'il y a un passé, il y a des choses difficiles à gérer. Et lorsque M. Onaï Sandi rappelle qu'en effet, il s'agit de faits présumés remontés à 2005 et qu'il s'agit d'une commande du ministère de l'Intérieur, ce n'était pas Ali Bongo, ministre de l'Intérieur, en 2005. Donc, là-dessus, nous attendons de voir jusqu'où ça va aller.
Vous êtes comme le pensait le président de la République, pour l'idée d'un complot, pour l'idée d'un lobby qui essaierait de déstabiliser son régime.
Pour ce qui est des autres cas qui ont été évoqués, le cas de l'avion et le cas des écoutes, nous sommes interrogatifs. Nous ne disons pas le gouvernement français. Nous sommes un État. Nous avons un gouvernement en place. Il n'est pas dit que nous n'ayons que des amis à l'extérieur comme ici. Mais pour l'heure, nous ne savons pas exactement quelle est la source de ces faits. Mais nous les couvrons. Cela dit, encore une fois, si les faits sont avérés et compromettent un collaborateur du président de la République, à un point tel que la justice arrive de manière indépendante à confirmer les faits, le chef de l'État prendra ses responsabilités.
Monsieur le maire, je suis surpris parce que nous avons déjà eu le cas de l'ancien directeur de cabinet du chef de l'État, qui est aujourd'hui ministre de la Santé, M. Oyeba, qui a posé sa démission parce que son nom avait été cité dans une affaire concernant la Banque des États de l'Afrique centrale, et M. Oyeba avait libéré son poste pour que la justice puisse faire son travail. Ce que nous pensons, c'est que lorsque les proches collaborateurs du chef de l'État sont cités dans des affaires, ils doivent démissionner pour que le chef de l'État ne soit pas pris à partie, qu'il ne soit pas mêlé à des affaires qui sont loin de lui.
Mais est-ce que ça devient pas un peu facile ?
Nous avons été surpris par ce qui s'est passé. Et il faut dire que ça a choqué l'opinion. Il faut vous dire que le Gabonais lambda qui est dans la rue entend que le directeur de cabinet du chef de l'État a été arrêté en France. Il ne saura pas faire la différence entre une enquête préliminaire et une...
Oui, mais est-ce que ça ne devient pas un peu facile lorsque on peut à tout moment citer quelqu'un dans une affaire? Est-il obligé de démissionner?
Peut-être là, ça... pas de démissionner, mais il faut savoir que lorsque on est collaborateur d'une grande personnalité, il est indiqué de ne pas porter préjudice à cette personnalité lorsque vous êtes cité dans une affaire, et les exemples sont légion. On a vu cela, et je vous ai cité tout à l'heure un cas qui est celui du ministre actuel de la Santé.
J'apprécie le sauve-qui-peut de M. le porte-parole qui a pris la précaution, et il est dans son rôle, de rappeler que ces faits-là a priori concerneraient l'ancien ministre de l'Intérieur et non le chef de l'État, n'est-ce pas?
Ah non, je ne l'ai pas dit. J'ai dit non, ce n'est pas moi qui dis les faits sont les faits, ce n'est pas moi qui les dis.
Oui,
je rappelle ce que dit l'enquête de l'État.
Mais c'est parfait de l'avoir rappelé. Simplement que tout ceci sonne un peu en écho d'une déclaration de M. Omar Bongo qui, en son temps, presque au terme de sa vie, rappelait, et c'est resté sentencieux, que Dieu ne nous a pas donné le droit de faire du Gabon ce que nous avons fait. Nous sommes là, effectivement, devant les conséquences dommageables de ces actes-là. C'est le même régime qui est en place, qui naturellement ne peut pas trouver grâce aux yeux de la loi, en essayant de se cacher derrière des boucs émissaires. J'ai entendu le chef de l'État parler de la souveraineté, mais hélas, nous sommes dans un environnement globalisé. Nous sommes partis à des conventions, celle de Palerme, celle de Mérida, et j'en oublie, qui, hélas, exigent qu'on puisse répondre. Et je termine par ceci. J'apprécie également la référence au fait que la présomption d'innocence doit pouvoir jouer, mais rappelons-nous de toute la batterie que le Premier ministre a dû mettre en œuvre pour mettre en avant notamment les immunités diplomatiques et obtenir que la mesure de garde à vue soit levée. L'État est là, c'est compromis, c'est cela qu'on doit retenir sur cette question.
Est-ce que vous remettriez, vous, en cause, le principe sacro-saint de la présomption d'innocence ?
Du tout.
Bien.
Du
est-ce
tout.
Est-ce que vous remettriez en cause le principe des immunités qui sont universelles ?
En la matière, il n'avait pas droit à l'immunité.
Vous n'en savez rien.
Aussi, c'est la Convention de Vienne, monsieur.
Non, monsieur.
C'est la Convention de Vienne.
On ne va pas faire un débat, on ne va pas faire du juridisme. Ça ne sert à rien. Encore une fois.
Mais c'est par le droit qu'on doit régler les questions.
Pardonnez-moi. Encore une fois, les questions qui sont posées sont claires. J'ai donné la réponse. À l'heure où nous parlons.
Alors, on a très peu de temps pour parler du New York Forum qui se déroule en ce moment au Gabon, la 4e édition. J'ai posé la question au président de la République de savoir ce que ça rapportait. Pourquoi faire un New York Forum for Africa et qu'est-ce que ça rapporte au Gabon ? J'ai envie d'entendre le docteur Akouré sur la question, rapidement, très rapidement.
Très rapidement, trois interrogations. La première, combien ça coûte ? Les gens parlent de 4 à 10 milliards de francs. Quelle est la réalité ? Nous aimerions savoir combien coûte le New York Forum Africa. Et qui paye ? C'est payé sur quelle ligne du budget de l'État ? Ou ça vient de quel fonds ? Ça, c'est la première interrogation.
Rapidement.
La deuxième, c'est qu'est-ce que ça nous rapporte ? En dehors de l'aspect bling-bling, c'est vrai, il y a beaucoup de personnalités qui viennent. Qu'est-ce que le Gabonais lambda tire de ce forum ? Nous sommes à la 4e édition. Qu'on donnait les trois premières.
Alors,
et juste pour terminer en disant, est-ce une priorité pour notre pays, le Gabon, qui connaît aujourd'hui une crise multiforme, notamment sociale et économique ?
En 30 secondes, votre point de vue.
J'avoue que j'aurais voulu avoir la parole officielle pour avoir les chiffres officiels et réagir aux conséquences. Parce que
on est très court en temps. Monsieur Bilibinzié, on va peut-être terminer dessus, hein, parce que nous arrivons au terme de l'émission quasiment.
Le New York Forum africain a deux objectifs. Le premier, effectivement, c'est de plateforme de rencontre entre des partenaires gabonais et ceux qui, de l'étranger, veulent ou peuvent investir au Gabon. Le deuxième élément qui est une plateforme, c'est effectivement inverser l'image qui était l'image du pays, qui n'a jamais été pendant longtemps...
Monsieur Bilibinzié, le chef de l'État l'a dit.
Une décision d'affaires. Pour ce qui est des contrats qui ont été signés, qui vont encore être signés pour cette édition, avec Caterpillar et avec d'autres, ce sont des contrats qui ont permis de créer des emplois au Gabon. Même si c'est 5, même si c'est 10, c'est des emplois qui ont été créés. Et de ce point de vue, la question qu'on investit pour un État n'est pas mettre en rapport direct avec ce que ça récolte. Quand on sème une graine, c'est pas le mois prochain qu'on en récolte le fruit. Et si on le semait, d'entretenir pour récolter plus tard le fruit. Monsieur Akouré parle des urgences sociales. Eh ben, c'est un comportement de cueilleur. Il faut avoir dans ce pays un comportement d'agriculteur qui sème, qui entretient et qui récolte.
Mais il faut, en disant quand même qu'il faut savoir combien d'argent nous mettons.
Vous avez le droit de décrire aux autorités gabonaises.
Mais je pense que vous représentez la plus haute autorité de notre pays.
Pour autant, je ne gère pas le budget de
l'État. Non, mais quand même, voilà, donc, les Gabonais veulent savoir combien. Parce que c'est cette opacité
malheureusement, le temps tourne.
On parle de 4 milliards, on parle de 10 milliards. Quelle est la vérité ?
Merci d'avoir accepté de participer à ce magazine. Le débat africain s'est terminé pour aujourd'hui. Dans un instant, une nouvelle édition de Journal sur Radio France Internationale. Delphine Michaud, Olivier Raoul et Alain Foucault, nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine, même heure, même fréquence, pour un autre débat africain. À très vite.
International.